Europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Longtemps et aujourd'hui encore, pour les nationalistes, la souveraineté ne pouvait être que nationale. Mais la construction européenne a changé la donne aujourd'hui en matière de climat, de commerce, de normes sanitaires ou encore monétaires avec l'euro. La souveraineté européenne est déjà une réalité quotidienne et pour cause. Seule la France pèse 1% de la population mondiale et 3% du PIB mondial. Grâce à l'Union européenne, elle peut parler au nom de 7% de la population et 23% du PIB mondial. Alors, peut-on et faut-il aller plus loin, par exemple dans le domaine du numérique ou dans celui de la défense? Emmanuel Macron, le président français, le pense, mais il peine à convaincre ses homologues que la souveraineté des Européens passe par plus de souveraineté européenne. Nous avons posé nos micros à Enghien-les-Bains, à quelques kilomètres de Paris, au nord de Paris, dans le cadre des entretiens européens d'Enghien organisés avec l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Jean-Pierre Monnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS. En français, on dit que c'est un think tank.
Tout à fait.
En vrai français, on dirait quoi?
On dirait un institut de recherche, mais c'est vrai qu'on emploie cette terminologie anglo-saxonne, sans que ça nous gêne véritablement.
Hélène Conway-Mouret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente du Sénat et sénatrice socialiste, représentant les Français établis hors de France. Et vous êtes aussi une ancienne ministre. Vous représentez tous les Français hors de France ou vous avez une circonscription?
Alors, j'ai une circonscription, elle est planétaire, à l'exception, bien sûr, de l'Hexagone et des territoires français. C'est-à-dire, je représente les 3,5 millions de Français qui résident à l'étranger.
Nils Jeune, bonjour. Guten Tag.
Bonjour.
Vous êtes député porte-parole pour les questions de politique étrangère du groupe parlementaire SPD, donc les socialistes allemands. Et vous êtes évidemment un habitué de ces entretiens d'Enghien. Tara Vama, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes directrice du bureau de Paris de l'ECFR. Alors, je vais le dire en anglais. European Council on Foreign Relations. Là encore, c'est un think tank.
Aussi, un think tank.
Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les think tanks de Jean-Pierre Molny, l'IRIS, et puis le vôtre, le CFR? Vous êtes plus européen ou non?
Alors, l'IRIS de Jean-Pierre Molny est beaucoup plus gros que le CFR. Je crois que c'est la principale différence, mais je pense qu'on poursuit tous les deux une ambition européenne.
Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de souveraineté nationale? J'ai pris un dictionnaire, je l'ai ouvert à la page souveraineté, et j'ai lu ceci. Pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements. Hélène Conway, longtemps l'idée de souveraineté s'est limitée à la souveraineté nationale car il n'existait pas de structure, d'institution au-dessus de l'État-nation.
Absolument, le projet européen reste unique. Il demeure en construction aujourd'hui. Deux pays qui s'étaient fait la guerre, qui ont été complètement ruinés avec quand même plus de 40 millions de morts, il ne faut pas l'oublier, et qui ont décidé d'avoir comme projet la paix et la prospérité du continent et donc de mettre en place tout un système qui ferait qu'ils ne seraient jamais plus amenés à vouloir entrer en guerre les uns contre les autres.
C'est comme ça que petit à petit, on est passé de l'idée de souveraineté nationale et l'idée d'une souveraineté européenne, même si le mot n'a pas été employé à l'époque. Nils Minich, lorsqu'en 1951, les Français, les Allemands, les Italiens et les gens du Benelux, les Néerlandais, les Belges et les Luxembourgeois mettent ensemble le charbon et l'acier, c'est une forme de souveraineté européenne qui se met en place sans vraiment le dire.
Oui, à l'époque, on parlait d'une organisation internationale comme le Conseil de l'Europe ou l'OTAN, mais pas à pas, c'est devenu une véritable Union européenne, ce n'est plus une communauté économique européenne. C'est pourquoi on peut, à juste titre, parler d'une souveraineté européenne émergente, et qui comporte plusieurs volets, économie, commerce, mais aussi militaire, politique étrangère, et qui doit être considéré comme un supplément de souveraineté, ce n'est pas une contradiction à la souveraineté nationale, mais c'est un renforcement des souverainetés nationales des pays membres de l'Union européenne.
Alors Jean-Pierre Mollier, on va quand même dire un mot de tous ces pays qui ne sont pas européens. Il y a 190 pays à peu près représentés aux Nations Unies. En dehors de l'Europe, tous les autres pays sont gérés et gèrent leur souveraineté au niveau national.
Bah oui, tous les autres pays gèrent leur souveraineté au niveau national. Mais on voit bien quand même que de par les mondes, il y a quand même des tentatives de s'organiser au niveau régional. Et en fait, si on regarde la façon dont ça se déroule toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on commence à s'organiser au niveau commercial, au niveau des échanges, parce que l'Union européenne, au début, c'était surtout le marché intérieur. Et c'est né, en fait, que très récemment, depuis le début des années 90, qu'on essaie d'avoir une véritable existence sur la scène internationale et où, effectivement, on commence à transcender la notion de souveraineté nationale dans une souveraineté européenne. Mais je pense que c'est un mouvement qui pourrait exister dans d'autres régions du monde. Il y a eu une tentative un petit peu en Amérique latine il y a quelques années. Mais c'est en fait, c'est le fait que les États se regroupent pour être plus forts.
Darverma, le principe même de la construction européenne, c'est un abandon volontaire d'une part de souveraineté des États, des États-nations, au profit d'une structure nationale. C'est ça, la philosophie, l'idée même de la construction européenne.
Oui, mais c'est exactement ce que disait Neil, c'est pour se renforcer. C'est-à-dire que les deux souverainetés nationales et européennes ne sont pas du tout mutuellement exclusives, elles ne font que se renforcer. On ne demande ni de renoncer à la souveraineté nationale, ni de renoncer à la souveraineté européenne qui est en construction. On a besoin des deux et on décide volontairement de s'unir, c'est pas tellement de renoncer, c'est qu'on s'unit pour être plus fort.
Alors dans les années 50, c'était tout de même une idée révolutionnaire.
Oui,
au lendemain de la guerre, comme l'a expliqué Hélène Conway-Mouret.
C'était une idée révolutionnaire, mais qui découlait d'un drame que Hélène a mentionné un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'on était à un niveau de destruction totale de l'Europe, de l'humanité en partie. Et donc, à un moment donné absolument dramatique, on s'est dit que ce n'était que possible de s'unir et d'avancer ensemble. Et c'est en cela que Robert Schuman et Jean Monnet se sont dit que l'interdépendance économique assurerait la non-guerre et donc la paix des États dans l'Union.
Alors en tout cas, depuis 1951 et la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le partage de souveraineté concerne un grand nombre de domaines sans forcément que les Européens s'en rendent compte. Schengen, par exemple, c'est un abandon de souveraineté. Le passage des frontières sans présenter son passeport, ça veut dire que la frontière, on l'abandonne, en tout cas provisoirement, elle est contrôlée plus loin. La PAC, la politique agricole commune, c'est un autre exemple d'abandon de souveraineté, c'est une politique commune. Les normes sanitaires très importantes qui nous protègent, par exemple, alors je vais être un peu caricatural, du poulet chloré américain, c'est une norme européenne. Le marché unique, la liberté de circulation des citoyens, des marchandises, des capitaux et des services, tout ça c'est forcément des abandons de souveraineté, sans bien sûr oublier l'union monétaire et l'euro. Alors faut-il aller plus loin ? Quelques semaines après son investiture, Emmanuel Macron plaidait déjà pour une plus grande souveraineté européenne. Voici un court extrait de son discours un peu historique de la Sorbonne de septembre 2017.
L'Europe seule peut, en un mot, assurer une souveraineté réelle, c'est-à-dire notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Il y a une souveraineté européenne à construire et il y a la nécessité de la construire. Pourquoi ? Parce que ce qui constitue, ce qui forge notre identité profonde, cet équilibre de valeurs, ce rapport à la liberté, aux droits de l'homme, à la justice collective, est inédit sur la planète. Cet attachement à une économie de marché, mais à la justice sociale, l'est tout autant. Ce que l'Europe représente, nous ne pouvons pas le confier aveuglément, ni de l'autre côté de l'Atlantique, ni aux confins de l'Asie. C'est à nous de le défendre et de le construire dans cette mondialisation.
Alors cette idée de souveraineté européenne que Emmanuel Macron a développée en quelques mots à l'instant, c'est quand même une idée française. Qui veut rebondir ? Darverma.
Alors, moi, non, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une idée française. Je crois que c'est une idée qui peut être impulsée par la France et qui a vocation à être discutée. C'est une idée qui a quand même été beaucoup mentionnée par l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Je pense que c'est une idée qui découle des institutions européennes et qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas l'attribuer à un État membre ou à une nationalité en particulier, parce que là, on se parle du destin commun des Européens.
Alors, le plaidoyer d'Emmanuel Macron, il va bien au-delà des contingences économiques, hein, Jean-Pierre Molny.
Bien entendu, ça va au-delà des contingences économiques et ça couvre notamment les questions de politique étrangère et de politique de défense, qui sont peut-être les domaines sur lesquels nous existons sur le papier, depuis le traité de Maastricht de 1992 et puis les évolutions en matière de défense de la fin des années 90. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si on regarde la situation sur la scène internationale, que ce soit en politique étrangère ou en politique de défense, on a quand même le sentiment que l'Union européenne, c'est un géant économique et un nain politique. Donc il y a une nécessité véritablement de construire quelque chose à ce niveau-là, qui se construira d'ailleurs à partir des souverainetés nationales. Il n'est absolument pas question d'abandonner les notions de souveraineté nationale, mais de se créer un destin commun à ce niveau-là et de prendre conscience qu'on a tous besoin de cette nécessité de se créer un destin commun.
Nils Schmitt, cette idée de souveraineté européenne, elle est comprise, partagée en Allemagne ou pas tant que ça?
Je dirais qu'il y a encore du travail à faire, mais l'avantage de cette idée-là, c'est qu'elle puisse dans une riche tradition politique et philosophique européenne. Alors l'idée de la souveraineté est immédiatement compréhensible par tous les Européens. Il s'agit de la capacité d'agir à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Et ce qui est frappant, c'est que l'Union européenne sait très bien agir à l'intérieur. Alors, elle définit les règles pour les produits agroalimentaires, par exemple. Donc, elle définit les normes pour la forme des bananes et des concombres qu'on peut vendre dans les supermarchés. Alors qu'à l'extérieur, elle ne peut pas trop influer le cours des choses dans les régions avoisinantes de l'Europe, que ce soit l'espace post-soviétique, le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Et pour porter l'espoir de l'Europe à l'extérieur de ses frontières, il faut développer une souveraineté européenne. Et l'avantage de cette notion-là, c'est aussi qu'elle comporte plusieurs volets. Ce n'est pas seulement l'aspect militaire qui est mis en avant par le président Macron. Il parle aussi de la protection des frontières. Il parle de la souveraineté technologique, de politique industrielle. Et donc il s'agit de faire fructifier ce concept-là sur tous les fronts. Il ne s'agit pas seulement de développer des capacités militaires, c'est bien, mais prenons l'exemple de la politique industrielle. Il y a les réseaux 5G, les nouvelles technologies pour l'Internet et la téléphonie. Et là, il est urgent que l'Europe produise ces technologies à elle, ces champions européens en la matière. Et seulement parce que ce sont des entreprises scandinaves au nom d'Ericsson et de Nokia, c'est la raison pour laquelle peut-être les Français et les Allemands n'y attachent pas trop d'importance. Si c'était Siemens et Alcatel, on aurait un débat beaucoup plus poussé à ce sujet-là. Alors là, ça montre que la souveraineté européenne, c'est vraiment un concept pour l'avenir de l'Europe.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la souveraineté européenne, c'est parfois trop la souveraineté des grands pays européens.
Oui, si on parle de souveraineté européenne, il faut prendre en compte les intérêts et aussi les avantages de tous nos partenaires européens. Et il est vrai qu'en matière de technologie, par exemple, les pays scandinaves ont beaucoup à contribuer.
Alors Hélène Conway-Mouret, est-ce que la souveraineté nationale est en concurrence avec la souveraineté européenne ou pas?
Mais non, enfin pas du tout, et il ne faut surtout pas le présenter comme cela. En fait, nous sommes passés d'un projet historique où on impose la paix à des pays à une puissance collective. Donc on voit que graduellement, forcément, chacun doit apporter aux autres ce qu'il a de meilleur pour avoir cette puissance collective et avoir un continent fort de 500 millions de citoyens qui, je crois, n'ont pas de problème ou n'ont plus de problème, en tout cas les jeunes n'en ont certainement pas, quant au fait d'assumer leur citoyenneté nationale, mais de se sentir également européen parce que un Allemand, par exemple, aujourd'hui peut se présenter aux élections municipales en France, peut voter aux élections européennes. Et donc on voit que on a tous nos droits et nos devoirs nationaux auxquels s'ajoute un certain nombre de droits et de devoirs civiques au niveau européen. C'est un petit peu comme la politique de l'oignon. Vous savez, un oignon a plusieurs couches et donc plusieurs peaux. Et il faut le concevoir comme cela, en se disant qu'on a en effet sa citoyenneté nationale, sa citoyenneté européenne. On a en effet le devoir de défendre nos intérêts nationaux. Mais qu'en défendant nos intérêts nationaux, ceux-ci sont encore plus préservés s'il y a des intérêts collectif que nous pouvons défendre. Et sur le plan économique, aujourd'hui, nous voyons bien que nous souffrons des mesures extraterritoriales que les Américains nous imposent tout simplement parce que les transactions se font en dollars. Si demain, cette puissance collective européenne est suffisamment forte pour faire en sorte que dans le secteur énergétique, par exemple, eh bien, les transactions se font en euros, on se libérera de cette puissance américaine aujourd'hui qui nous force à nous retirer de certains pays, qui nous emmène à imposer des sanctions dans d'autres, des sanctions qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus difficiles à supporter pour nous, finalement, que parfois le pays auquel elles sont imposées. Donc, cette souveraineté européenne, il faut la voir comme une déclinaison de différentes politiques qui sont à même de protéger finalement l'ensemble des pays. Mais je rejoins Niels Schmitt, il faut absolument être inclusif. Et dans la parole française, il ne faut pas d'abord qu'elle soit comprise comme française, et Tara a tout à fait raison. Le président de la République française peut-être aujourd'hui porte ce discours-là, mais ce concept existe, est utilisé par d'autres. Peut-être le porte-t-il de façon un peu plus forte que les autres aujourd'hui. Et puis, bon, on attend souvent que la France soit force de proposition aussi, hein, qu'elle mette sur la table des idées et ensuite de voir ce que l'on peut en faire. Mais sincèrement, aujourd'hui, je crois qu'il faut aller vers cette souveraineté européenne inclusive dans laquelle les pays se retrouvent, des pays qui n'ont pas tous le même âge. Certains sont de jeunes pays qui
et pas
sont
toute
nés.
La même histoire, évidemment.
Et oui, certains sont nés dans les années 90. Mmh. Et ceux-là, on leur demande d'être au même niveau que des pays comme l'Allemagne ou comme la France ou comme l'Italie, qui, eux, ont une histoire millénaire. Donc voilà, il faut prendre tout cela en compte.
Alors comment arbitrer entre la souveraineté nationale et la souveraineté européenne? Est-ce qu'il y a des domaines où la souveraineté européenne s'impose? Je pense par exemple évidemment à la défense qu'a évoqué Emmanuel Macron dans un récent discours à Munich et à Paris également. En quelques mots, Jean-Pierre Monique, on arrive au terme de la première partie de cette émission.
Je pense que c'est aussi des questions de période. Il faut bien voir que, d'abord sur cette question de souveraineté européenne, au niveau européen proprement dit, vous avez des textes de l'Union européenne avant que Macron soit élu qui parlent, alors c'est dans le domaine de la défense, d'autonomie stratégique. Donc c'est pas français, c'est aussi européen et même européen avant d'être français. Je pense que par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, notamment en matière de défense, ce qui a rebat les cartes, c'est la situation internationale avec une montée en puissance de la Chine, une Russie qui nous inquiète, ou en tout cas qui inquiète certains pays, depuis l'épisode de la Crimée en 2014, et puis troisièmement, un président américain qui de toute façon nous dit, au fond, soyez plus autonome, puisqu'il dit il faut que vous preniez en compte votre défense, et qui, en plus, sur certains dossiers, dont on voit bien qu'ils ne partagent pas nos intérêts de sécurité. Donc, de toute façon, on est poussé par la situation internationale à avoir plus de souveraineté européenne.
Vers une souveraineté européenne plus grande, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
europejskie.
Rozumieją tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel. Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Longtemps et aujourd'hui encore pour les nationalistes, la souveraineté ne pouvait être que nationale. Mais la construction européenne a changé la donne. Aujourd'hui, en matière de climat, de commerce, de normes sanitaires ou encore monétaires avec l'euro, la souveraineté européenne est déjà une réalité quotidienne. Peut-on et faut-il aller plus loin? Par exemple, dans le domaine du numérique ou dans celui de la défense. Emmanuel Macron, le président français, le pense, mais il peine à convaincre ses homologues que la souveraineté des Européens passe par plus de souveraineté européenne. Nous sommes à Enghien, c'est tout près de Paris, au nord de Paris, dans le cadre des entretiens européens d'Enghien, organisés par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Jean-Pierre Molny, il est directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Hélène Conway-Mouret, vice-présidente du Sénat et sénatrice socialiste des Français établis hors de France. Nils Schmitt est député et porte-parole allemand pour les questions de politique étrangère du groupe parlementaire social-démocrate SPD. Et Tara Varma, directrice du bureau de Paris de l'ECFR, European Council on Foreign Relations. Alors avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Joël Lepavou.
Bonjour Daniel.
Vous êtes le correspondant de Courrier International à Budapest, en Hongrie. Et en matière de souveraineté, il y a la tentation d'aller vers le haut, vers la souveraineté européenne. Et puis, il y a aussi la tentation d'aller vers le bas. Et l'on remarque dans les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, la révolte, ou du moins la rébellion des grandes villes, des capitales, des cités-États contre l'État-nation, qui est souvent en Europe de l'Est populiste et hyper-conservateur, eh bien c'est devenu une réalité.
Oui, tout à fait. C'est exactement dans cet esprit que les maires de Budapest, Bratislava, Prague et Varsovie ont conclu un pacte des villes libres le 15 décembre dernier. Et le lieu choisi pour conclure ce pacte était extrêmement symbolique puisqu'il s'agissait de l'Université d'Europe centrale fondée par George Soros à Budapest, une université qui avait été la cible du gouvernement de Viktor Orban et dont une bonne partie des activités déménagera à Vienne à compter de la rentrée prochaine. Et les quatre maires en question appartiennent à la gauche libérale ou écologistes, comme dans le cas de Gergely Karácsony, le maire de Budapest. Et l'idée de ces quatre élus, c'est de porter ensemble des dossiers européens pour obtenir des subventions auprès de Bruxelles, mais aussi de porter des dossiers qui leur tiennent à cœur, comme par exemple la transition écologique ou la liberté académique. Et là, j'en reviens effectivement à l'histoire de l'Université d'Europe centrale.
Est-ce que cette rébellion des capitales peut remettre en cause les pouvoirs centraux?
Disons que cette révolte ne peut pas vraiment être considérée comme une révolution et qui plus est, les maires en question sont des maires de villes plutôt cosmopolites et donc assimilées à la gauche libérale comme c'est le cas de ces élus. Dans le cas de la Hongrie, par exemple, on remarque que la gauche libérale reste extrêmement morcelée face à l'hégémonie électorale de Viktor Orban et les prochaines élections législatives ayant lieu en 2022, on ne voit pas vraiment qui serait en mesure de pouvoir empêcher Viktor Orban de remporter un quatrième mandat consécutif.
Merci Joël Lepavou. Je rappelle que vous êtes correspondant pour Courrier International à Budapest en Hongrie, Courrier International l'Hebdo et Courrier International.com, le site. Alors c'est vrai que là on est un petit peu dans la marge, comme l'expliquait Joël Lepavou, ça ne va pas changer cette idée de souveraineté nationale. C'est vrai que pour vous l'expliquer Hélène Convey, l'histoire des pays européens n'est pas la même et pour ces pays d'Europe centrale et orientale, évidemment l'histoire est plus récente, la démocratie est plus nouvelle. Et ce sentiment d'indépendance est évidemment plus récent, ce qui fait qu'ils sont peut-être plus attachés que les autres à cette idée de souveraineté nationale plutôt que cette souveraineté européenne.
Oui, je crois qu'il ne faut pas négliger la géographie et l'histoire de chacun des pays qui constituent l'Union européenne. Et ces pays, finalement, de par une histoire récente, en tout cas d'un système démocratique auquel ils ont enfin eu accès à partir des années 90 pour la plupart, de se dire que finalement la notion de citoyenneté est peut-être différente puisque certaines générations n'avaient jamais eu à participer finalement au développement de leur pays. Ils étaient dans un système autocratique où les citoyens n'avaient pas d'engagement. Et aujourd'hui, ce qui vient d'être décrit, pour moi, fait partie d'un processus naturel de développement de la démocratie dans ces pays où aujourd'hui, c'est aussi peut-être l'expression, et ça, il faudra faire très attention à ce qui se passe à l'avenir, parfois d'une dichotomie entre le monde urbain et le monde rural. C'est ce qui s'est passé dans le Brexit, quand on voit le vote à Londres, qui est une ville multiculturelle, multilingue, et ainsi de suite, et le vote dans le reste du pays, on a bien vu qu'il y avait un fossé de cette appréhension du monde, de cette peur de l'autre que les nationalistes utilisent, parce que le nationalisme, c'est quand même le repli sur soi. Donc, dès lors que l'on parle de souveraineté européenne, on brise automatiquement leur fonds de commerce qui est on ferme les frontières, on reste entre nous, on a peur de l'autre et éventuellement un jour, et c'est ce qui s'est passé malheureusement dans notre histoire européenne, on se fait la guerre parce que on veut prendre le territoire de l'autre, ou on ne lui fait plus confiance, ou on a peur. Voilà.
Alors il y a un pays qui a voulu retrouver sa souveraineté nationale, c'est le Royaume-Uni, et c'est évidemment l'épisode, le feuilleton incessant du Brexit qui a trouvé quand même une issue avec ce départ effectif des Britanniques de l'Union européenne. Est-ce que les Britanniques, selon vous, vont pouvoir retrouver cette souveraineté nationale à laquelle les Brexiteurs aspirent? Ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué que cela?
Ils auront bien entendu une souveraineté nationale, puisqu'ils vont redevenir État-nation. Mais la vraie question qui va se poser sur les Britanniques, c'est quel va être leur État en termes de prospérité économique et de leur place sur la scène internationale. Et l'inquiétude qu'on peut avoir pour eux, mais également pour nous, parce que, comme le disait Michel Barnier, le négociateur du Brexit, le Brexit, c'est lose-lose. C'est-à-dire, c'est perdant-perdant. C'est perdant pour le Royaume-Uni, c'est perdant pour l'Union européenne. Et la crainte qu'on peut avoir pour le Royaume-Uni, c'est qu'effectivement, ils soient dans une souveraineté nationale, mais qui, en réalité, ne leur permettent pas d'exister sur la scène internationale, voire économiquement. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est quand même une tendance à vouloir à la fois continuer à avoir les bénéfices de l'Union européenne, mais avoir un Brexit qui, vis-à-vis des électeurs britanniques, soit un vrai Brexit dur. Et ça, c'est totalement contradictoire. Ce qui fait d'ailleurs que la négociation sur la relation future risque d'être quand même difficile entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Tara Farmer, longtemps, l'Europe s'est accommodée du leadership américain. Évidemment, avec l'élection de Donald Trump et sa réélection éventuelle, le réveil des Européens a été brutal.
Je vous trouve un peu dur. Je crois que les Français et les Allemands ont mené un leadership européen déjà dans l'histoire de la construction européenne assez fort. Il est certain que les Américains ont joué un rôle au tout début, puisque le Marshall Plan, c'est quand même le plan Marshall, c'est quand même un investissement américain. Mais je crois pas que le leadership américain et le leadership européen sont mutuellement exclusifs, mais je crois qu'il y a un leadership européen qui était assez fort. Avec le couple franco-allemand, les Britanniques ont joué un rôle essentiel. Il y a eu les pays fondateurs. Aujourd'hui, il est certain que notre allié principal et surtout la garantie de sécurité d'un certain nombre d'États membres en Europe, les États membres de l'OTAN, elle est un peu remise en question aujourd'hui, non pas du fait des Européens, mais du fait des Américains qui ont, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, un discours qui n'est pas non plus un discours que Trump a apporté. Obama a dit que les Européens étaient des free riders, donc c'était... On va traduire ça schématiquement comme des profiteurs de l'aide américaine. Il y a des appels depuis des années à ce que les Européens contribuent beaucoup plus à leur défense. Alors là où c'est assez ironique et où les Européens sont un peu pris en étau, c'est que les Américains disent « prenez en charge votre défense, mais achetez américain ». Comment est-ce qu'on accomplit notre autonomie stratégique, notre liberté d'action, notre souveraineté européenne en étant capable de nous défendre nous-mêmes avec notre propre industrie? Et cela ne veut pas dire de ne pas s'allier avec les Américains. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il est évident que les Européens doivent rester alliés avec les Américains. La région Indo-Pacifique, c'en est un exemple. En revanche, dans la situation au Moyen-Orient, on voit bien que malheureusement, les intérêts des Européens et des Américains sont de plus en plus divergents.
Au cœur des relations et des contradictions entre les Européens et les Américains, on a envie de, Neils Schmitt, de mettre les Allemands, qui évidemment font peu d'efforts pour leur défense. Le pourcentage que les Allemands consacrent à la défense par rapport au PIB est très très faible. Il paraît que la Bundeswehr, un hélicoptère sur trois est en état de voler un avion sur deux. Peut-être que j'exagère, mais
exagérer guerre.
peut-être encore plus grave, alors, si je n'exagère pas. Donc, il y a évidemment cette contradiction allemande, parce que la souveraineté européenne, pour les Allemands, elle ne doit pas empêcher les constructeurs automobiles allemands d'exporter vers les États-Unis, ce qui est comme évidemment une contradiction majeure et permanente de la part des Allemands.
Il y a un fort lien transatlantique entre l'Allemagne et l'Amérique. Il y a une forte tradition d'amitié entre les deux nations. C'est pourquoi le débat sur l'autonomie stratégique n'a pas vraiment pris en Allemagne. Par contre, la souveraineté européenne, ça veut dire défendre nos intérêts, y compris nos intérêts économiques et commerciaux à l'égard des États-Unis, de la Chine et d'autres pays du monde. Et je pense que les Allemands ont très bien compris qu'il fallait encore plus investir dans la politique de défense commune en Europe, mais aussi dans la souveraineté européenne en matière économique. Et c'est la première fois que les Américains aient élu un président qui soit ouvertement opposé à la construction européenne, qui considère l'Europe non pas comme partenaire, mais comme, je dirais, ennemi ou au moins opposant de l'Amérique. Et c'est très nouveau. Et cela a choqué beaucoup de monde en Allemagne. Mais cela nous a aussi révélé l'importance de la souveraineté européenne. Et prenons l'exemple des exportations automobiles. Il est évident qu'il y a un intérêt allemand là-dessus, mais il y a aussi un intérêt allemand à travers l'Europe de défendre nos intérêts. Et je crois que l'Allemagne est beaucoup plus prête et beaucoup plus ouverte à ce genre de discussion qu'il y a 2 ou 3 ans.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescales.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Enghien dans le cadre des entretiens européens d'Enghien. Allons-nous vers plus de souveraineté européenne? Nous sommes avec Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, avec Hélène Conway-Mouret, elle est vice-présidente du Sénat et sénatrice socialiste des Français de l'étranger, avec Nils Schmitz, député et porte-parole sur les questions de politique étrangère du SPD, les sociodémocrates allemands, et avec Tara Varma, directrice du bureau parisien de le CFR, European Council on Foreign Relations. Jean-Pierre Molny, ce qu'évoquait un instant Neil Smith, c'est cette idée qu'il fallait retrouver plus de souveraineté européenne dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est relativement hostile avec des pays très autoritaires, évidemment la Chine, la Turquie et la Russie, vous l'aviez évoqué dans la première partie de l'émission, et puis cet allié américain sur lequel on ne peut plus trop compter, en tout cas il peut être imprudent de trop compter sur lui. Est-ce que c'est pas l'occasion pour les Européens de sortir de cette naïveté? Je prends l'exemple, Neil Smith évoquait la politique industrielle l'an dernier, la fusion entre Siemens et Alstom au niveau ferroviaire pour construire ce qu'on appelle toujours un Airbus ferroviaire, eh bien, ça a été mis en échec par les statuts mêmes de l'Union européenne. Alors, on sent bien que tout ça, c'est en train de changer au sein des Européens, à Bruxelles, dans les couloirs du Parlement, du Conseil et de la Commission. Est-ce que c'est plus de souveraineté nationale, c'est aussi pour les Européens sortir un peu de cette naïveté dont on les accuse régulièrement?
Ce qui se passe surtout au niveau de l'Union européenne, c'est qu'elle s'est constituée, notamment au niveau de la Commission européenne, sur la base de la compétition, du libre-échange, et tout ça, c'était dans les années 90. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est quand même une évolution, et j'ai envie de dire une évolution qu'on voit plutôt positivement au niveau français, où effectivement, le libre marché, la libre compétition, c'est très bien, mais ça peut parfois effectivement avoir des inconvénients et il faut peut-être effectivement réguler, on va dire réguler de manière un peu différente. Moi, ce qui me frappe au niveau de l'Union européenne, c'est que vient de sortir une stratégie numérique, qu'il y a une stratégie industrielle qui est en cours de préparation, c'est-à-dire qu'on voit l'Union européenne et notamment la Commission européenne commencer à travailler comme une sorte d'acteur public qui intervient dans le domaine industriel et technologique. Et ça, c'est une évolution extrêmement importante, extrêmement intéressante. Et il faut d'ailleurs qu'on puisse relayer ce type d'information auprès de nos citoyens. Parce que ça, c'est un autre débat, peut-être que vous poserez la question. Il faut quand même faire très attention à ce que tout ce qui est souveraineté européenne, Union européenne, ce ne soit pas quelque chose d'éthéré pour nos citoyens.
Oui, il faut que ça prenne un peu racine chez les citoyens, qu'il y ait une prise de conscience un petit peu que, évidemment, plus de souveraineté européenne, ça ne veut pas dire moins de souveraineté nationale et, je veux dire, moins d'éloignement entre les élites politiques et le citoyen de base.
Exactement, parce qu'il faut que les citoyens en tirent les bénéfices. Si on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit, c'est quand même aussi le fait que le citoyen britannique s'est dit à un moment « qu'est-ce que je tire de l'Union européenne ?» Et l'Union européenne, c'est devenu un petit peu le bouc émissaire de leur malheur. Or, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ça peut très bien se passer dans nos pays. Il ne faut pas oublier qu'en France, on n'a pas voté le traité constitutionnel en 2005. Alors bon, il y avait de bonnes raisons pour ne pas le voter. Mais quand même, il y avait un risque. Et donc, c'est jamais la fin de l'histoire. Hein. Et après le référendum du Brexit, la grande peur de tous les pays européens, c'était d'ailleurs que l'Union européenne éclate.
Alors que veut dire souveraineté nationale et même européenne lorsque certaines sociétés multinationales ont des chiffres d'affaires qui sont bien supérieurs à des PIB de bien des pays, notamment européens? Qui veut rebondir sur cette question? Neil Smith.
Mais cela nous amène à la question de la puissance normative de l'Europe. Mm-hmm. C'est-à-dire, pour réguler les marchés et les sociétés transnationales, il faut une puissance régulatrice que ne peut pas exercer un État seul. C'est pourquoi l'Union européenne, avec le marché unique et les règles qu'on essaie d'établir en matière de protection de données privées, par exemple, sur l'Internet, nous donne les moyens nécessaires à affronter ces grandes sociétés internationales que les géants de l'Internet comme Facebook doivent aussi s'en tenir aux règles établies par l'Union européenne quand il s'agit de protéger les données privées des consommateurs. Ça, c'était très important. La directive européenne sur la protection des données privées, c'est devenu une sorte d'exemple pour d'autres espaces économiques au monde, et ça montre l'efficacité de la souveraineté européenne en matière économique.
Oui, c'est la fameuse RGPD, Règlement Général de la Protection des Données, je vous le donne en français, et évidemment c'est une initiative européenne face aux GAFA, donc les grandes multinationales du numérique. Au niveau national, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas agir. Le bon niveau, c'est le niveau européen, Neil Smith.
C'est exactement le cas, et ça montre que l'idée de la souveraineté européenne peut être appliquée à plusieurs volets, et le volet économique et commercial est extrêmement important.
Hélène Cormier, vous vouliez réagir?
Oui, et simplement compléter, parce que je partage ce que Neil vient de dire, en disant que finalement nous avons réussi le développement économique avec le marché unique, et qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps politique. Et les décisions qui sont à prendre au niveau européen, en effet, de réagir contre les amendes que nous infligent ou les sanctions parfois que nous infligent les Américains. Nous le voyons, nous, en France, avec, par exemple, la proposition qui était française de taxer les GAFA. La mesure prise par le président Trump immédiatement était de taxer les produits agricoles, notamment les vins français à 100%. Et donc de pénaliser toute une filière chez nous. Si cette décision avait été prise au niveau européen, eh bien, les mesures de rétorsion auraient été moindres ou plus diluées, ou peut-être n'y en aurait-il pas eu parce qu'il y aurait eu une négociation engagée entre deux partenaires plutôt à égalité qu'entre un géant et un petit qui est la France quand même, qui est bien une taille modeste et une économie modeste au regard des États-Unis. Donc je pense que nous sommes vraiment aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est important de parler de souveraineté européenne dans un temps politique où on a besoin d'une confiance collective dans ce que nous pouvons faire ensemble, et après d'essayer de le décliner pour défendre nos intérêts communs. Et peut-être arrêter, et c'est une autre façon aussi de combattre l'extrême droite et tous ces partis qui vont à l'encontre de ce projet européen, hein, puisqu'ils prônent le contraire, hein, ils veulent un retour au sein des frontières et ainsi de suite. C'est une façon aussi de protéger nos démocraties en interne.
Jean-Pierre Molny, la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen se veut une commission géopolitique. C'est un mot nouveau, hein, on entendait rarement la Commission européenne parler de géopolitique, ce qui implique implicitement une souveraineté européenne dans des domaines importants comme la défense que vous avez évoqué, mais aussi le spatial, mais aussi le numérique, et en gros ce qui fera l'économie de demain.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est le fait de dire, voilà, l'Union européenne veut être un acteur sur la scène internationale. Ce qui est frappant et ce qui est extrêmement encourageant, c'est que dans cette nouvelle Commission européenne, il y a désormais une direction générale défense et espace. C'est-à-dire qu'on a mis des domaines qui sont des domaines de la souveraineté au sein de la Commission européenne. Et ça, c'est nouveau, ça s'est jamais vu, si vous voulez. Donc, depuis 1957, voilà, c'est la première fois. Avec peut-être un petit bémol, je sais pas si c'est sur ce sujet sur lequel Hélène Conway voulait réagir, c'est qu'il y avait une proposition qui était quand même plutôt positive en termes de budget de la DG Défense et Espace et qui est un petit peu réduite à l'heure actuelle dans la négociation sur le budget de l'Union européenne.
Est-ce que quelque part, développer cette souveraineté européenne, ça veut dire s'affronter aux États-Unis ?
Oui, je pense que c'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'il faut bien dire que si, notamment de la part d'Emmanuel Macron, la notion de souveraineté européenne, elle s'est quand même constituée par rapport à un environnement qui devenait un environnement agressif. Environnement agressif de la part de la Chine. Qu'on le veuille ou non, il faut, par exemple, sur la question des routes de la soie, il faut qu'il y ait une réponse européenne. Il ne peut pas y avoir de réponse nationale.
La stratégie de la route de la soie, voilà. C'est l'idée de la Chine, à travers cette nouvelle route de la soie, d'exporter leurs produits un peu partout dans le monde, et évidemment d'abord en Europe, qui est le premier marché du monde.
Voilà. Sur la question de la Russie. La question de la Russie, c'est ne pas se faire imposer notre relation avec la Russie de l'extérieur, avoir notre vie propre. Et vis-à-vis des États-Unis, c'est à la fois, en fait, répondre à leur demande de prendre mieux en compte notre sécurité, mais également de se dire, ils seront peut-être pas toujours là, un, et deux, on partage pas toujours les mêmes intérêts de sécurité. Maintenant, ça veut pas dire en même temps qu'on est opposé aux États-Unis. C'est pas ce que ça veut dire. Encore une fois, et le président de la République l'a bien répété, on est dans l'OTAN, la sécurité collective, c'est l'OTAN, et la sécurité collective, c'est également les États-Unis qui sont dans l'OTAN. Mais il n'empêche qu'il faut se préparer à avoir une capacité de liberté d'action autonome.
Alors là, j'en reviens vers vous encore, Neil Schmidt. Est-ce que les Allemands sont conscients de cette nécessité de progresser sur l'autonomie stratégique, l'Europe de la défense, au-delà des bons mots à l'issue des conseils européens ?
Je pense qu'ils en sont bien conscients, mais ils veulent éviter l'affrontement direct avec les États-Unis, notamment en matière de politique de défense. Et l'idée, c'est de développer une souveraineté européenne en tant que deuxième pilier de l'OTAN et non pas séparé de l'OTAN. Et en réalité, c'est ce qu'il faudrait faire parce que l'Europe ne sera pas en mesure de se défendre sans l'appui des armes nucléaires américaines déployées sur le sol européen. Par contre, quand il s'agit des conflits commerciaux et économiques, l'industrie allemande a bien compris qu'on a besoin de plus d'Europe pour défendre nos intérêts vis-à-vis la Chine et les Américains aussi. Et ça, c'est pourquoi je pense que les volets non militaires, les volets économiques, financiers et commerciaux de la notion de souveraineté européenne compteront beaucoup dans le futur débat en Allemagne. Je pense que la France et tous les partenaires européens devraient s'attacher à ne pas parler seulement défense et politique étrangère, mais aussi parler euro, commerce international, indépendance économique, quand il s'agit de développer cette souveraineté européenne.
Alors, Tara Varma, vous allez avoir le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. On a parlé de souveraineté économique, de souveraineté en matière de défense, d'autonomie stratégique. On a parlé de souveraineté numérique, spatiale et autres. Puis aussi, une souveraineté qu'on n'a pas du tout abordée, c'est la souveraineté des valeurs. C'est que au sein de l'Union européenne, on ne vit pas les uns et les autres comme une grande partie du reste du monde.
Alors, je pense que à l'intérieur d'un même État, on accepte qu'il y ait différents partis politiques, différentes visions. Et parfois, il faut qu'on l'accepte aussi au sein de l'Union européenne. Je ne vois pas pourquoi on prétendrait qu'au sein de l'UE, les 27 États membres parviennent en permanence à un consensus parfait. Lorsqu'il y a des conseils, des chefs d'État, des ministres, ils parviennent à ce consensus. Et d'ailleurs, cette logique délibérative, je pense qu'elle fait la force de l'UE. Elle relève complètement de la puissance normative de l'Union européenne. En revanche, il y a aussi des États avec lesquels on a une histoire, une géographie différente, avec lesquels on a des perceptions différentes et avec lesquels on ne partage pas des opinions politiques.
Il y a aussi ce que je voulais dire, c'est les valeurs que partage l'Union européenne par rapport de démocratie, d'État de droit, etc., qui ne sont pas forcément partagées par le reste de la planète.
Non, mais le système multilatéral, il n'est pas forcément un système de partage de valeurs, c'est un système de coopération. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre tous ces États autour de la table. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est qu'avec la détérioration de l'environnement géopolitique, la notion même de cette coopération, elle est remise en question. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que même avec des États avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, on arrive quand même à s'asseoir à la table des discussions? Et c'est d'autant plus nécessaire que les frontières de l'Europe à l'Est et au Sud, elles remettent en cause la sécurité et la stabilité de notre continent. Et donc, du reste du monde. Donc il faut que nous, on continue de porter un message qui soit que les Européens accueillent les autres à la table des discussions, que les Européens peuvent être les fers de lance justement de ce qu'on appelle en anglais « the international liberal order », qu'on traduit en français par le monde multilatéral, mais ça couvre pas vraiment ça justement. Comment est-ce que l'Europe continue d'être une puissance normative? Je crois que c'est le cœur un peu de ce que la souveraineté européenne est censée représenter.
Alors ce serait l'objet d'un débat, mais effectivement l'Europe est un peu seule aujourd'hui pour défendre le multilatéralisme. Ce sera l'objet d'un autre Carrefour de l'Europe. Merci à tous les quatre d'avoir été à ce Carrefour de l'Europe ici à Enghien-les-Bains, dans le cadre des entretiens européens d'Enghien-les-Bains. Réalisation Stephen Halsley, avec Maria Fonso, Joël Le Pavou de Courrier International et la complicité de Nadia Ben Mahfoud. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe en podcast, deux possibilités: le tout nouveau site RFI.fr, rubrique podcast, balado-diffusion, comme on dit au Québec, j'aime bien le mot, ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, ou que vous soyez à Enghien, Paris, Bruxelles, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.